Il ne parle pas du visible et de l'énonçable. En revanche, il fait la plus pure et la plus complète théorie de l'énoncé dans ce livre. Et le visible a disparu. Et au lieu d'une dualité énoncé-voir ou énonçable-visibilité, au lieu d'une telle dualité, il y a une dualité milieu discursif, formation discursive, à quoi répond l'énoncé, et milieu ou formation non discursive. Je peux donc dire que dans l'archéologie du savoir, il y a mise entre parenthèses de la visibilité comme forme positive, et que ce qui n'est pas l'énoncé est simplement désigné de manière négative, milieu non discursif. Je me dis, comment expliquer ça? Que l'archéologie du savoir court-circuite le visible et s'en tienne à une théorie de l'énoncé, s'il est vrai que le savoir a deux pôles. C'est là où je m'avance un peu, je dis, à mon avis. C'est parce que de tout temps, l'énoncé avait le primat. Si l'énoncé a le primat, on peut concevoir que dans un livre qui traite de l'énoncé, l'autre pôle ne soit plus désigné que négativement, puisque ce n'est pas le pôle essentiel du savoir. Ça me force à dire, au moins, une fois que j'ai fait cette hypothèse qui rend compte d'un problème réel chez Foucault, ça me force à me dire s'il était vrai que c'est le primat, c'est l'énoncé qui a le primat, pourquoi aurait-il un primat? Pourquoi est-ce que l'énoncé dans le langage aurait un primat sur le visible dans la lumière? Donc je suis forcé de m'avancer encore un petit peu et de dire, eh ben oui, il y aurait une manière qui consisterait à répondre, finalement, le visible est une dépendance de l'énoncé. On ne voit que ce qu'on dit. Ce serait une première hypothèse à vérifier. C'est-à-dire, le visible serait un simple produit du langage. Bon, je me dis, alors peut-être que certains d'entre vous, je suppose, pourraient se dire, ah ben oui, cette hypothèse, elle est suffisante, elle est bien, elle me convient. Moi, elle ne me convient pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il faudrait supprimer les textes, le nombre de textes infinis de Foucault, où est toujours posée une irréductibilité du visible à l'énonçable. Ce sont deux formes irréductibles. Et je ne vois pas le moyen, il n'a jamais, à cet égard, il n'est jamais revenu sur ces textes. Certains, comme le texte sur Magritte, ceci n'est pas une pipe, sont des textes tardifs. Donc, impossible de faire du visible une dépendance de l'énoncé. En revanche, lorsque je dis l'énoncé a le primat sur l'énonçable, sur le visible, lorsque je dis cela, je ne dis pas du tout que le visible se réduit. Avoir le primat sûr ne signifie pas se laisser réduire. Alors, tout ce à quoi je m'engage, c'est à essayer de dire en quoi... Dans la mesure où, d'autre part, la fonction du langage et la production d'énoncés, il s'agit de produire des énoncés. Je peux dire l'énonçable est la forme de spontanéité du langage. D'où l'importance de la différence que Foucault a fait, c'était l'objet de nos analyses au début. L'énoncé différent de nature et n'est pas la même chose qu'une phrase ni une proposition. car en dégageant l'énoncé dans la différence, dans sa différence avec phrase et proposition, je crois que Foucault veut dégager la forme sous laquelle le langage exerce une spontanéité. Alors, si vous m'accordiez ceci, mais c'est beaucoup demandé, ça, j'en suis conscient. Si vous m'accordez ceci, il n'y a plus tellement de difficultés. Car je peux dire, si l'énoncé a le primat, c'est parce que l'énoncé est forme de spontanéité, tandis que le visible est seulement forme de réceptivité, et il appartient à la forme de spontanéité de déterminer la forme de réceptivité. La forme de spontanéité, qu'est-ce que c'est que la spontanéité? C'est l'acte de détermination. Tandis que qu'est-ce que c'est que la réceptivité? C'est la forme du déterminable. Le réceptif, c'est ce qui est déterminable. Dès lors, dire l'énoncé al prima, c'est dire c'est l'énoncé qui est déterminant, le visible est seulement le déterminable. Est-ce que ça éclaircit? Ça éclaircit?
Oui. Mais en même temps, si on pense ça en termes de rapport de force, je comprends ça comme si le pouvoir d'affecter aurait le primat sur le pouvoir d'être affecté. Comme si le pouvoir de aurait le primat sur le pouvoir de la lumière. Et ça, ça me paraît un problème.
C'est une nouvelle difficulté. Mais je dirais, au niveau des rapports de force, il ne peut plus y avoir de primat. Le primat est d'une forme sur une autre forme. Les rapports de force ne passent pas par des formes. Donc, il n'y a pas de primat, ou du moins, on verra qu'il y a un primat. Mais c'est dans les rapports de force qu'il y a bien un primat, mais que c'est pour un troisième élément qui n'est ni pouvoir d'affecter, ni pouvoir d'être affecté, qui va être autre chose. Bon, ça va, c'est clair tout ça. Mais je pense que ça peut être l'impression de beaucoup d'entre vous que cette année, ce qu'on fait depuis le début semble parfois extrêmement abstrait. Alors, ça m'ennuie beaucoup parce qu'évidemment, c'est le plus fâcheux. Et ça ne devrait pas être comme ça. Alors je voudrais ajouter une recette pour ceux qui trouvent que ce qu'on a fait reste abstrait. Pour moi, c'est bizarre, ça ne fait pas cet effet, mais je ne peux pas discuter d'une impression. Je crois que pour rendre tout ça concret, il faut prendre des jalons. Le premier jalon quant à savoir, le premier point de repère concret quant à savoir, c'est il faut que les choses vous disent quelque chose. Il faut que ça vous dise quelque chose. Si ça ne vous dit rien, je parle quand je dis il faut que ça vous dise quelque chose, j'entends bien, tout ne se passe pas par une compréhension, la compréhension est abstraite. Mais si quelque chose me dit, là on est dans le concret. Ce qui devrait vous dire quelque chose au niveau de l'analyse du savoir, c'est dans quelle situation est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'on se rend bien compte que voir et parler, ce n'est pas la même chose. Là, c'est concret. Ça, c'est un point concret. Parler ne s'enchaîne pas avec voir, mais entre voir et parler, il y a bataille. Il y a différence de nature, au point que, encore une fois, je vois ce dont je ne parle pas et je parle de ce que je ne vois pas. Ça, c'est très concret. Parce que vous pouvez avoir l'impression que, oui, ça rend bien compte du statut de l'audiovisuel. Et je vous disais, tout l'effort du cinéma, sous un de ces aspects du cinéma contemporain, sous un de ces aspects, c'est creuser ces différences, ces divergences entre voir et parler. Alors ça, je tiens à ça, je dis, s'il y avait une source concrète de toutes les analyses que je vous ai proposées sur le savoir, c'est-à-dire sur l'intrication, voire parler, ce serait là la source concrète. Qu'est-ce qui se passe entre voir et parler ? Pour ce qu'on a fait sur le pouvoir, alors, si ça vous dit rien, c'est que, ou bien j'ai raté, ou bien c'est vous qui ne répondez pas à un thème. Ça peut toujours arriver, hein, ça peut arriver, c'est un thème qui ne vous dit rien à la lettre. À ce moment-là, je suis impuissant. Hein. Je veux dire, je ne peux quelque chose que dans la mesure où il y a une complicité, c'est-à-dire où ça vous dit quelque chose. Au niveau du pouvoir, je dirais la même chose. Ce qui est très concret, la source concrète de toutes les analyses sur le pouvoir, ce serait quoi ? Ce serait cette idée que, dans toutes nos expériences, même quand on ne s'en rend pas compte, nous nous heurtons au pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir est toujours un ensemble de micro-pouvoirs. Et ce sont ces micro-pouvoirs que Foucault prétend analyser. Mais l'idée que nous nous heurtons constamment au pouvoir, alors ça peut être des choses aussi simples, oui, je ne peux pas traverser la rue ou je ne peux pas arrêter ma voiture sans qu'il y ait un flic possible, mais ça, avec une contravention, mais ça c'est... bon. Mais il me suffit de quelque chose d'aussi simple pour que tout devienne concret. On n'arrête pas de se heurter au pouvoir. Bien. Alors, si notre vie est comme balisée par des micro-pouvoirs, que nous exerçons et qui s'exerce sur nous, pouvoir d'affecter, pouvoir d'être affecté, en quoi consistent ces rapports de pouvoir, etc. Et enfin, troisième point concret, est-il vrai que ces rapports de pouvoir sont comme un tissu qui rendent compte chez nous des rapports entre voir quand nous voyons et parler quand nous parlons ? C'est ça, il me semble, qui est concret. Alors, j'ai l'impression que si ces thèmes, ces trois thèmes très concrets, très très simples, c'est pas de la philosophie là, c'est comme des repères dans notre expérience vécue. Je vous dis, dans l'expérience vécue, voilà l'expérience vécue que Foucault, si on n'a pas de complicité avec cette expérience vécue, vous aurez beau comprendre tout ce que je dis, ça restera abstrait. Ces trois points de complicité vécue pour... Si je me sens en affinité avec Foucault, c'est parce que je participe à ces trois points. Pas de la même manière, sûrement, d'une autre manière. Si je ne participais pas à ces trois points au nom d'une espèce d'expérience vécue, c'est évident que je ferais autre chose qu'un cours sur Foucault. Alors, si j'essaie de redire, parce que ça m'importe beaucoup quant à vous, c'est voilà. Il faut que dans votre expérience vécue, vous ayez un certain problème. Même spontané, même involontaire, quoi, un certain problème. Qu'est-ce qui se passe entre voir et parler ? Moi, je conçois très bien, vous pouvez être extrêmement intelligent, extrêmement créatif, tout ce que vous voulez, et que vos problèmes ne passent pas par là. Je dis, ce qui est sûr, c'est que Foucault n'était pas le seul, même en art. Puisqu'encore une fois, tout le cinéma contemporain, dans ce qui est le plus beau, le cinéma contemporain, joue sur cette béance entre voir et parler. Cette entre, qu'est-ce qu'il y a entre voir et parler ? Je dirais que, par exemple, si je prends un autre philosophe très considérable, chez Merleau-Ponty, vous ne trouverez jamais un problème de ce type. Pour lui, parler s'enchaîne avec voir. C'est une prise de conscience très spécifique de certaines situations de vision et de certaines situations de parole. Si vous me dites là-dessus, pourquoi est-ce que Foucault valorise ces situations de vision et de parole, où se déclare un hiatus entre voir et parler, je vous dis, ben non, ça revient à dire pourquoi Foucault dit-il ce qu'il dit. Ben, c'est parce qu'il est Foucault, hein, j'en sais rien, pourquoi. Ben, c'est ça qu'il a besoin de dire et envie de dire. Donc, la première complicité, ça doit être ça. Je vous dis, la seconde complicité, c'est les micro-pouvoirs qui forment un tissu auquel on cesse de se heurter dans notre vie. Là, c'est l'expérience que Foucault appelle l'expérience de l'homme infâme. L'homme infâme, c'est celui qui, comme une mouche ou comme un papillon, se heurte quand sans cesse. C'est assez proche de l'expérience kafkaïenne des bureaux. Dans le château, toujours un bureau à côté du bureau, hein, bon. Tout un système de micro-pouvoirs. Alors bon, hein. Moi j'essaie de le traduire dans mon expérience. Moi, c'est pas une expérience personnelle, l'expérience vécue, ça veut pas dire une expérience personnelle, ça veut dire ce qu'on remarque dans la vie. Moi je suis frappé, alors là je ne fais plus du Foucault, je suis frappé dans l'expérience de la vie la plus quotidienne, comment on saute d'un micro-pouvoir à un autre. Je vous disais, dans un ménage, la distribution des micro-pouvoirs. Quand un bonhomme rentre le soir ou quand une femme rentre le soir, quelle tête tu fais, dit l'un à l'autre. Ah, quelle tête tu fais. C'est marrant, quelle tête tu fais. Bon. C'est-à-dire la convocation à parler ou la convocation à montrer. Explique-toi. Pour une fois, je vous le disais l'année dernière, parce que ça, je le vis, il faut que vous le viviez aussi, ou bien c'est abstrait. Je vous disais, moi, ce qui me frappe dans la vie, c'est pas du tout que les gens n'arrivent pas à s'exprimer, c'est qu'on les force à s'exprimer quand ils ont rien à dire. Et c'est ça, le pouvoir. Qu'est-ce que c'est, le pouvoir de la télé? Qu'est-ce que c'est, le pouvoir des journaux qui ont pris le pas sur la télé? Bon, il téléphone à un pauvre type et lui dit « Exprime-toi ». Dis un peu ton avis. C'est quelque chose de farant. On est convié dans les sociétés disciplinaires, on est convié du matin au soir à donner notre avis. Mais sur des trucs. En fait, on n'a aucune raison d'avoir des idées. Ou pas souvent, en tout cas pas sous la forme de cette question-là. C'est bien, ça c'est un micro-pouvoir. Quand je vous le dis, le pouvoir fait voir et fait parler. On te forcera à parler. Je dirais à ce moment-là, c'est pas seulement la télé, c'est en effet dans les ménages. Et c'est forcé, je dis pas que ce soit mal, comment faire autrement? Se taire, c'est pas bien, ça finit par être pesant. Tout ça, c'est sans issue, mais c'est la bouillie de l'expérience vécue. Si je rentre fatigué, je me réclame du droit de ne pas parler. C'est délicieux de ne pas parler. Mais c'est fantastique de ne pas avoir d'avis. Oh, mais c'est une joie. Alors qu'est-ce que c'est les gens de pouvoir? C'est ceux qui ne savent pas que c'est une joie de ne pas avoir d'avis. Mais ne pas avoir d'avis, c'est pas du tout être comme le type dans les sondages qui répond « j'ai pas d'avis ». Celui-là, il a un avis. C'est bien autre chose. C'est pas non plus garder une infériorité. Ne pas avoir d'avis, c'est faire le vide. C'est faire le vide. Et faire le vide, c'est précisément, on arrive à ce que j'ai encore à dire, c'est une manifestation de résistance. Lorsque ne pas avoir d'avis, c'est simplement ne pas avoir d'avis, c'est fâcheux, c'est manque de renseignement. Mais lorsque ne pas avoir d'avis consiste à, sur ce point, je fais le vide, parce que ça ne me concerne pas ou ça ne m'intéresse pas. Et là, ça peut être mal aussi. Ça peut être complètement se livrer au pouvoir. Ça peut être aussi tout dépendé. C'est vous dire que tout ça, c'est... Je fais appel à des expériences vécues. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas ou qui ne communiquent pas avec ce type d'expériences vécues qui me paraissent à la base de la philosophie de Foucault, c'est qu'en effet, ce cours ne risque pas de leur apporter grand-chose. Hein. Ça arrive, les années changent. On change de sujet tous les ans, il se peut très bien qu'une année, ce que j'ai à dire, on vous dise quelque chose, et une autre année, que ça ne vous dise rien. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a deux opérations, toujours. Deux opérations simultanées, quand vous avez la patience d'écouter quelqu'un. Il faut bien que vous compreniez d'après les concepts. Et il faut aussi que vous ayez une sphère d'expérience vécue qui recoupe ce dont il s'agit dans les concepts.
À ce propos, y a-t-il le rapport entre Foucault et Artaud?
Je ne sais, il n'y a pas de rapport spécifique, mais Foucault fait partie de ceux très nombreux qui ont pour Artaud une admiration. Il va de soi que Foucault a été amené à croiser Artaud à beaucoup de niveaux, parce qu'il l'a nécessairement rencontré déjà au niveau de l'histoire de la folie, et dans toute la période où Foucault a essayé de se demander au mieux qu'est-ce que signifiait la folie. Oui. Oui, ça tout à fait. Il y a un rapport généralement. Qu'est-ce qui intéresse Foucault? Quels sont les grands auteurs que Foucault admirait entre la fin du 19e et le. Ben, il y a tout le groupe Raymond Roussel, Brisset, il y a les fous du langage, quoi. Il y a Artaud, il y a Mallarmé, donc c'est les grands auteurs de Foucault. Il y a Heidegger, on verra pourquoi. Oui, il était sûrement, enfin, il connaissait admirablement Artaud. Est-ce que Artaud a exercé sur lui une influence? Je pense pas. Mais qu'il ait eu amour, admiration d'Artaud, ça me paraît évident.
C'est peut-être, moi, je voulais parler, s'il est possible, c'est un vrai de la sorte, de ce vide qui ne cesse jamais de se remplir.
Ouais, mais là, tu comprends, tu me ramènes à des notions déjà trop compliquées, à savoir. Ce que Artaud appellera le vide. Alors que moi, je voulais dire précisément une chose toute simple d'expérience vécue, sans me justifier sur les mots, à savoir, je voulais uniquement dire, ben voilà, si vous voulez comprendre par notion ce dont il s'agit, il faut toujours y joindre des complicités vécues. Si vous n'avez pas les complicités vécues, ce n'est pas votre faute, c'est que votre expérience est structurée autrement. À ce moment-là, en effet, tout ce que je dis nous paraîtra extraordinairement abstrait. Je crois. C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours se laisser aller quand on écoute quelqu'un. C'est compliqué, il faut une double attention. Il faut une attention d'après les concepts, parce que si vous vous contentez du vécu, il faut perpétuellement que vous renvoyiez à un vécu quelconque. Sinon, ça ne marche pas. Les notions doivent être toujours très très difficiles. Le vécu corrélatif doit être d'une simplicité d'enfant. C'est pour ça que le bon moment, c'est les exemples. Les exemples, c'est toujours des trucs absolument durs, tout ça.
Il peut y avoir une résistance ou un retournement possible. C'est-à-dire que si le pouvoir peut parler, le fait d'inciter justement à dire, à parler, de son avis, de ses opinions, ça peut se retourner, ça. C'est-à-dire qu'il est possible que plus un homme de pouvoir est sourd, aveugle ou muet, plus il est possible aussi de le faire parler. Et c'est très intéressant que à ce moment-là, ça peut il dit, justement.
Oui, mais Comtesse, tu sais, c'est normal, ça, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est parce que l'homme de pouvoir, il n'est pas pris, il n'est pas épuisé par les rapports de pouvoir. Bien plus, les rapports de pouvoir ne se passent pas entre hommes. Dès qu'il y a homme, il y a forme. C'est-à-dire, l'homme de pouvoir est forcément amené à parler lui-même et à montrer lui-même, ou à voir lui-même. Il est forcément amené, puisqu'il participe à l'effet, il participe entièrement au savoir. C'est en tant qu'il se présente comme sachant que l'homme de pouvoir parle et voit. Et en effet, concrètement, il n'y a que des mixtes de pouvoir-savoir. L'homme politique invoque un savoir. il n'invoque pas le fait d'avoir le pouvoir. Il invoque toujours un savoir. Et c'est en tant qu'il invoque un savoir, c'est ce que je vous disais, le pouvoir et le savoir sont strictement inséparables dans le concret. C'est pour ça, et c'est en tant qu'il participe au savoir, immanquablement, que l'homme politique, comme tu dis, est forcément aussi celui qui parle et celui qui voit. Je vous vois, hein, regardez les affiches là, et ils nous regardent quoi. Ils nous regardent pour un avenir radieux, ils voient, et j'ai pas besoin de dire qu'ils parlent. Mais s'ils voient et s'ils parlent, c'est pas en tant qu'ils sont termes des éléments pris dans des rapports de pouvoir, c'est en tant qu'ils sont aussi des formes, ils soignent leurs formes, comme on dit, des formes prises dans des relations de savoir. Comment cela se fait? Ah ben là, écoute, je m'écroule, tu m'apportes un coup fatal. Je pensais ne pas avoir cessé d'expliquer pourquoi pouvoir et savoir étaient strictement indissociables. Cela se fait parce que pouvoir et savoir sont strictement indissociables.
Dans le concret.
Non seulement dans le concret, mais dans l'abstrait, mais de deux manières différentes. Dans le concret, parce que l'expérience ne nous présente que des mixtes de pouvoir-savoir. Dans l'abstrait, parce que si les rapports de pouvoir sont causes, ce sont des causes immanentes. Et que leur effet, c'est-à-dire les formes de savoir, sont intérieures aux rapports de pouvoir même. Il n'y a nulle extériorité. Et encore, on va voir le contraire tout à l'heure, mais ça fait rien. Il dit qu'il n'y a nulle extériorité parce qu'il n'y a que de l'extériorité. Donc on ne peut pas dire qu'il y a de l'extériorité. Mais enfin, on va voir ça tout à l'heure pour vous achever.
Le pouvoir dont on parle n'est jamais le pouvoir, il est toujours extérieur.
Le quoi?
Le pouvoir dont on parle n'est jamais le mien. Ce n'est jamais le mien tel qu'il m'apparaît à travers ses limites, il est toujours extérieur.
Tout dépend ce que vous entendez par le mien. Si ça veut dire celui d'une personne qui est moi, non, le pouvoir n'est jamais le mien. Si vous entendez d'une singularité qui est en moi, là, le pouvoir est le vôtre. C'est-à-dire là, on n'a pas encore abordé ce point parce que ça... Là aussi, il faudra que ce soit concret. La personne ou l'individu, c'est déjà pas la même chose, mais mettons, identifions-les. La personne ou l'individu, d'une part. D'autre part, les points singuliers, les singularités, sont deux instances complètement différentes. Par exemple, on ne quitte pas notre histoire. Donc, par exemple, je prends ma craie. Ceux qui répondraient à l'ANSE, non, hein, vous me voyez tout à l'heure. Voilà. Les noms là, hein. Voilà. Voilà une forme. C'est un bonhomme, hein. Voilà. Ça, c'est une forme. Mettons que ce soit un individu. Il dit moi. Bon. C'est une forme. C'est vous, par exemple. C'est vous. Cette forme je suppose, c'est une supposition, que ce soit une enveloppe de singularité. Ces singularités n'existent pas hors de lui. Elles lui appartiennent. Oui, c'est d'un autre domaine. C'est quand même d'un autre domaine. Qu'est-ce que c'est des singularités? Par exemple, vous voyez quelqu'un. Vous vous dites, oh, c'est bizarre, celui-là. Tout s'organise, par exemple, autour de sa nuque. Il se tient comme ça. Déjà, vous avez des singularités de perception. Vous allez faire de la nuque Dans ce cas, ce n'est pas forcément vrai pour tous. Il y en a qui ont une nuque neutre. Il y en a qui ont une nuque très accusée, comme si tout leur visage s'organisait autour de la nuque. Vous allez dire, bon, allez, c'est une singularité de ce temps. Vous retenez. Et puis, vous voyez en même temps, et vous ne comprenez pas, faire une énorme colère. Avec toutes les caractéristiques d'une colère, mettons, paranoïaque. C'est bizarre, bizarre. Je prends exprès un exemple, un autre trait qui n'est pas physique. Un trait, mettons, psychique. Vous allez mettre vos singularités. Vous les notez. Vous faites le tableau des singularités de quelqu'un. C'est un jeu innocent, hein, sans intérêt, innocent. Nu. Colère explosive. Et puis après sa colère, il vous dit au revoir. Et vous vous dites, quelle drôle de manière de tendre la main. Vous voyez, oh, c'est bizarre, vous dites ça. Cette fois-ci, c'est un geste. Un geste. Oh, il a un geste. Comme on dit, un geste qui n'appartient qu'à lui. Pourquoi on aime ou on déteste les gens? C'est jamais à cause de leur forme, hein, c'est à cause des singularités qu'on a repérées chez eux. Hein. Je connaissais quelqu'un, moi, dont la manière de dire au revoir m'a toujours paru si mystérieuse que je n'ai jamais pu la déchiffrer. C'est important, ça. Car il disait au revoir, il faisait une série de mouvements, alors c'était un dynamisme spatio-temporel très étonnant. Son bras était le long de sa jambe. Premier temps du dynamisme, il levait le bras, il restait collé le bras, et il l'amenait là. Et le bras restait toujours collé. Et il ouvrait la main. Et on était conviés à glisser la sienne. Et il déplorait le bout des doigts. Bon, quand on tombe là-dessus, c'est une chose qu'on n'oublie pas. Troisième singularité. Je dirais, nous avons une forme qu'on peut appeler à la fois, nous avons une forme en tant qu'individu. Nous avons une forme corporelle. Je dirais que c'est la forme organique. Nous avons une forme psychique. Nous avons une forme morale. Enfin, les meilleurs d'entre nous ont une forme métaphysique. Beaucoup de formes. Hein. C'est en fonction de ces formes que je dis mon corps, mon âme, moi, etc. Je dirais, c'est le domaine des formes, ça. Mais il y a autre chose. Finalement, les formes sont des paquets ou des enveloppes de singularité. Nous enveloppons des points singuliers qui n'existent qu'en nous et qui pourtant ne sont pas nous. Alors, il y a telle singularité, ah, elle vient de mon grand-père. Elle s'est plantée là, elle s'est plantée en moi. Finalement, je suis un paquet de... Je voudrais que vous compreniez ça, parce que c'est là aussi, ou bien ça vous dira quelque chose, mais il faut vivre comme ça, et il ne faut pas vous forcerez pas. Si vous ne vivez pas comme ça, vous vivez autrement, et ce sera très bien aussi. Mais est-ce que vous vivez comme ça? Des paquets de singularités, un paquet de corps étrangers. Moi, je me vis bien comme ça, je suis un paquet de corps étrangers. Alors, j'ai l'air d'un moi, j'ai toutes les apparences d'un moi poli, mais c'est absolument une enveloppe de corps étrangers. Il n'y a que ça, il y a que des corps étrangers. Alors, bien, on enveloppe un certain nombre, on n'en a pas une infinité de corps étrangers. Pensez à la manière dont, par exemple, Proust décrit le baron Charlus. C'est une merveille, quand il dit là dans une page inoubliable, la voix de Charlus enveloppait une nichée de jeunes filles.
la voix de Charus. Quand Charus, tout d'un coup, se met à parler aigu, la voix de Charus enveloppait Edith Michaud, une jeune fille. Ah, c'est les singularités de Charus. 12, 20, 40 jeunes filles hantent la voix de Charus. Il y a des animaux en nous, mais pas des animaux comme femmes. Il y a des animaux comme singularité en nous. C'est pas la même chose qu'une forme. Jamais personne n'est une vache, ni les hommes. Mais il y a des hommes qui ont des singularités bovines. Alors, je dis, l'ensemble de singularités que j'abrite en mon sein, eh ben, c'est d'une autre nature que mes formes, mon corps, mon âme, etc. Et on retrouverait là le domaine des formes et le domaine des rapports de force. Les rapports de force et les rapports d'un point singulier à un autre. Quel rapport y a-t-il entre telle singularité, la nuque, et telle explosion de colère? Là, il y a un rapport de force. Pareil. Bon, ce serait ça le pouvoir. Mais je dis à la lettre, vous, c'est quoi? Tout dépend ce que vous appelez vous-même, ce que vous appelez moi. Comme dit Beckett, quoi. Moi, non, oui, on peut toujours dire moi, il ne faut même pas s'indigner, il ne faut pas dire je dirai plus moi. Il faut bien parler comme tout le monde, on dit bien le soleil se lève, alors que le soleil ne se lève pas, hein, c'est la terre qui tourne. Ben, on continue à dire le soleil se lève et puis il n'y a aucune raison de changer. Il n'y a aucune raison de ne pas dire moi, mais ça n'a aucune importance. Aucune. Aucune. Tout le monde sait que, enfin, un certain nombre de gens savent que moi, il n'y en a pas. Mais on continuera à dire moi parce que le moi, c'est précisément une habitude. C'est une habitude, alors on tient à ses habitudes. C'est pas qu'on ait l'habitude de dire moi, c'est le moi qui est une habitude. J'ai habitude avec moi-même, oui. Alors le moi, c'est le produit de l'habitude. Bien, mais qu'est-ce que je suis? Enfin, on peut vivre comme ça. Qu'est-ce que je suis? Je suis en fait un tissu de singularité. Un tissu de singularité, et puis mes formes visibles ou psychiques, c'est des courbes qui unissent ces singularités. Si vous vivez comme ça, d'abord la vie vous deviendra beaucoup plus plaisante. Si vous vivez comme une courbe intégrale là, qui se balade et qui entoure des singularités de votre nature, oui, vous risquez de... Enfin, il ne faut pas vous forcer, hein. ou bien ça vous dit quelque chose que je dis, ou bien ça ne vous dit rien. Et vous vous dites, il est en train de dire. C'est un bon critère, ça. Parce que si vous vous dites, mais il est flou, ou il délire, si vous vous dites ça, c'est que vous n'avez pas, et là c'est pas du tout un reproche, vous n'avez pas cette complicité vécue au niveau de cette année. Au niveau de cette année, l'année prochaine, il se peut que je parle d'autre chose, vous aurez complicité vécue. Si ce que je dis vous dit quelque chose de très confus, puisque je parle uniquement là de cette structure du vécu, si ça vous dit quelque chose, alors oui, à ce moment-là, tout ce qu'on raconte depuis le début de l'année est bon pour vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus considérer que c'est abstrait. C'est pas abstrait. Simplement, il faut être sensible, je crois, à ceci. Du point de vue des concepts, ça devient alors toute une affaire. Donner un statut des singularités, donner un statut des intégrales qui passe au voisinage des singularités. Finalement, la courbe intégrale va avoir comme produit moi. Mais la courbe, elle entoure bien autre chose que moi. La courbe, elle cerne les singularités constitutives. Alors voyez, il peut y en avoir une qui vient d'un grand-père. Elles sont tellement... c'est-à-dire appartenir à une lignée génétique. Il y en a une autre qui me vient, par exemple, d'un rapport avec un ami. Là, ce sera une singularité acquise. Il y en a une autre. Je ne peux pas ainsi. Est-ce que c'est moi qui l'ai créé, mais quel moi? De toute manière, on est constitué de ça, nous l'avons. Et alors, ce qu'on appelle un caractère, ben c'est une moyenne des singularités de quelqu'un. Hein, on fait toujours une moyenne des singularités, alors on dit, ah ben oui, il a l'habitude de se mettre en colère. Mais c'est pas ça la singularité. La singularité, c'est les circonstances précises d'une seule mise en colère, qui d'une certaine manière contient toutes les autres. C'est ça la singularité. Si vous faites une moyenne où vous concluez, ah ben oui, moi je suis coléreux, vous êtes dans le domaine des formes, vous n'êtes plus dans le domaine des singularités. Des singularités ponctuelles. Mais encore une fois, si ceci ne vous dit rien, c'est excellent. C'est très bien. Si ceci vous dit quelque chose, c'est très bon. Vous vivez ainsi. Si ceci ne vous dit rien, c'est très bon aussi. Vous vivez autrement.
Est-ce que cela nous revient à... Je posais simplement ma question parce que dans les exemples que vous avez donnés de vécu concret du pouvoir, on voyait toujours le pouvoir en tant qu'on est affecté et non en tant que nous en affectons.
Ah oui, et ça je vous réponds tout de suite parce que c'est pas... Parce que je supposais, votre remarque est très très juste, je suppose que l'autre aspect va être soi. Puisque pour tous les gens, le pouvoir, ça consiste à affecter les autres. Ce qui est plus original, c'est l'idée de Foucault que fait partie non moins du pouvoir, le pouvoir d'être affecté par les autres. Exactement, et là ça correspond, pour répondre à quelqu'un qui me parlait tout à l'heure, ça correspond exactement à l'idée de Nietzsche, à savoir... Être dominé n'est pas moins de la volonté de puissance que l'être dominant. Ça c'est tout à fait, c'est la transcription par Foucault de l'idée à Nietzsche.
Et donc on considère bien les deux versants.
Ah, complètement. On considère les deux versants, une fois dit que les deux versants ne forment une espèce de distinction duelle que approximativement. Car ce qui compte bien plus, c'est les mille manières d'être dominé, les mille manières d'être dominant. C'est-à-dire que c'est la multiplicité qui compte beaucoup plus que le dualisme.
Je voudrais savoir si tout cela, comment dire, se laisse expliquer par d'autres termes. Par exemple, en des termes de moi fermé et de moi ouvert. Ou bien de moi bourgeois et de moi radical. Car le moi fermé ou le moi bourgeois, c'est bien ce qu'ils ne se rendent pas compte de cette singularité.
Je comprends. Je comprends. Je dirais pas moi ouvert et moi fermé, parce que au niveau de l'ouvert, il n'y a plus de moi. Il me semble. Au niveau de l'ouvert, il y a des jets et des répartitions de singularité. Il n'y a plus rien qui ressemble à moi. Mais là aussi, vous comprenez, moi j'ai toujours été, je comprends, il y a quelque chose que je comprends. C'est quand on fait de la philosophie nationale, quand on fait de la philosophie par nationalité, et il n'y a que Nietzsche qui a su faire ça profondément, qui a su dire, ah ben oui, les Allemands, c'est bizarre leur philosophie, ils pensent comme ceci, voilà les grands traits, sinon les autres, chaque fois qu'on attendait un truc comme ça, ça a été l'écrivement, nul. Il y a que Nietzsche qui s'est parlé de la pensée anglaise, la pensée allemande, la pensée française, sans que ça tombe dans le grotesque. Là, il avait une méthode sans doute qu'il venait de faire. Et une des choses qui m'apparaît, c'est que dans ces caractéristiques nationales des philosophies, c'est que les Français, ils ont toujours pataugé, non j'ai tort de dire pataugé parce que ça a l'air d'être, péjoratif et c'est pas du tout ça dans mon cas. Ils ont toujours évolué dans le moi. Ils ont fait du moi une catégorie philosophique. Au point que nous, qu'est-ce que c'est pour nous que la philosophie, comme on nous dit toujours, ça commence avec Descartes. Moi je pense. Mais bien sûr, c'est pas le moi ordinaire, on sait, on apprend ça, c'est pas le moi ordinaire. Et bizarrement, ça s'exprime sous la forme moi je pense. Les Allemands, eux, alors ça, c'est les Allemands, ils en restent pas au moi je pense, ils trouvent pas clair. Il leur faut une forme plus forme pure, le je. Et la différence entre le moi et le je, c'est que le je. Le moi est à la rigueur constitué, mais le je, c'est le pilon constituant. Les Allemands s'élèvent jusqu'au fondement. Ils ne peuvent respirer que le niveau du fondement, la philosophie allemande. Les Anglais, c'est très curieux. Vous savez à quoi on connaît un penseur anglais, et je me demande tout le temps pourquoi. Dans le cas des Français et des Allemands, il y aurait des moyens de répondre. Les Anglais, c'est vrai distinct. Parce que eux, c'est des philosophes, vous les reconnaissez à ceci. Tout de suite, c'est que je, pour eux, ça ne veut strictement rien dire. Et est-ce que c'est par hasard que c'est les mêmes qui font, qui prennent comme méthode de la philosophie, quelle expérience vécue, quand je dis tel mot, quelle expérience vécue ça a été ça, l'acte fondateur de la philosophie anglaise, ça a été, je dis un mot, d'où leur attachement au langage dès le début de leur philosophie, je dis un mot, à quelle expérience vécue puis-je exhiber, puis-je montrer, comme correspondant à ce mot. Alors on leur dit,